Bonjour Jacqueline Fardel.
Bonjour.
On ouvre la presse internationale avec vous ce matin et dans les journaux, la peur et les questions 3 jours après l'attentat de Ouagadougou au Burkina Faso.
Après l'attaque du café-restaurant Aziz Istanbul, la circulation a repris hier sur l'avenue Kwame Nkrumah, les Champs-Élysées burkinabés, où se trouvent les établissements à la mode de la capitale. Les commerces ont rouvert, mais le cœur n'y est pas, constate Lorient Le Jour. On vient ouvrir, mais on a toujours peur, confie le responsable d'un magasin dans les colonnes du quotidien libanais. Les petits stands de grillades, de vente de cigarettes et de mouchoirs en papier sont là. Un tailleur de 38 ans s'est arrêté devant la scène du drame. C'est horrible, c'est incompréhensible, lance-t-il. C'est sur cette même avenue, à 300 mètres de là, qu'en janvier 2016, 3 djihadistes avaient tué 30 personnes en mitraillant des cafés et des hôtels. Et si pour l'instant l'heure n'est pas au bilan économique, souligne le Faso.net, il est évident que cette nouvelle attaque meurtrière aura des conséquences sur l'économie nationale. 72 heures après l'attentat, certains établissements ont enregistré de nombreuses annulations. Parce qu'aujourd'hui, le Burkina Faso n'est plus en sécurité, assure Le Monde. Hier préservé du terrorisme sous Blaise Compaoré, le pays est aujourd'hui confronté aux djihadistes de la sous-région, mais aussi à une insurrection islamiste locale. Dimanche 13 août, ce nouvel attentat dans le centre-ville, qui a fait 18 morts et 22 blessés, est venu rappeler la vulnérabilité du pays des hommes intègres. Même si cette fois, les unités d'intervention étaient plus aguerries, la coordination meilleure, assure un porte-parole de la gendarmerie. En janvier 2016, les forces de sécurité burkinabé avaient montré d'immenses failles. Mais nous n'avons pas su tirer les leçons du 15 janvier 2016, assure un autre gendarme, cité par Le Quotidien. Il y a eu des menaces avant l'attaque, mais personne n'a pris ses responsabilités. L'État n'a pas de stratégie antiterroriste. Les autorités ne font que boucher les trous. Aussi résilient soit-il, l'affable pays des hommes intègres n'ignore pas qu'il est une pièce du puzzle djihadiste sahélien, lance un intervenant de Jeune Afrique. Et puisque Transnational est le puzzle, Transnational se devait d'être la solution. Réunissant le Burkina, le Mali, le Niger, la Mauritanie et le Tchad, la force militaire G5 Sahel, soutenue par la France, devrait être opérationnelle au début de l'automne, rappelle le journal. Aux politiques de démontrer que cette nouvelle configuration n'est pas un trompe-l'œil diplomatique. Ce dont doute le site d'information burkinabé Wakar Sera, la victoire sur le terrorisme au Sahel demeure encore une chimère, regrette un éditorialiste. Les attentats se suivent et rivalisent dans la comptabilité macabre, que ce soit au Tchad, au Niger, au Mali ou au Burkina Faso. Ces pays n'ont d'autre solution que de s'unir pour vaincre l'hydre djihadiste. Malheureusement, le nerf de la guerre fait défaut de façon criarde. En gestation, la force du G5 Sahel doit se créer dans le dénuement presque total. Comment mettre en place et a fortiori déployer une force aussi lourde, composée de 5000 hommes, sans les moyens nécessaires? Le budget colossal nécessaire est de 423 millions d'euros annuels pour mettre la machine antiterroriste en branle. Et aujourd'hui, seuls 50 millions ont été promis, souligne encore Lorient Le Jour. Il reste à traiter les causes économiques et sociales, la pauvreté, le chômage qui favorise la montée des extrémismes religieux. Le manque d'éducation, d'emploi pour les jeunes, cela a joué, explique un officier dans les pages du Quotidien. Pour lui, les autorités doivent rapidement réagir contre la radicalisation.
À lire à ce sujet le dossier édifiant de la BBC sur ces jeunes adolescents entraînés dans les camps de l'État islamique en Syrie.
Comme Mutassim, 16 ans, réfugié en Allemagne, Mutassim a été recruté par les troupes du groupe État islamique en Syrie à l'âge de 14 ans. Sa famille refusait qu'il se marie. L'organisation lui a promis une femme. L'adolescent a donc été volontaire. Il a suivi le programme d'éducation du groupe. Prière à 4h du matin, entraînement au combat, enseignement de la charia, avant de se retrouver à Raqqa sous les bombes, assister aux humiliations, aux exécutions sommaires. Mutassim a décidé de partir quand il a vu un soldat battre une femme syrienne. L'adolescent a réussi à faire le trajet depuis la Syrie jusqu'en Europe en un mois sans être repéré. Omar, 17 ans, lui aussi s'est échappé des troupes de Daesh. Il a mis des mois avant de raconter son histoire. Aujourd'hui arrivé en Belgique, il boit une bière en regardant, en répondant aux journalistes avec méfiance. On pourrait facilement le croire plus jeune jusqu'à ce qu'on voit ses yeux épuisés, fuyant. Les enfants sont un terrain fertile pour l'État islamique. C'est facile de leur laver le cerveau, de les recruter, explique un intervenant aux journalistes de la BBC, qui précise qu'au moins 2000 enfants ont été enrôlés dans la machine de guerre de l'organisation. Ceux qui s'en sont échappés vivent à l'extrême marge de la société qui les accueille. Il faudrait beaucoup d'argent et de moyens pour les aider à s'en s'en sortir. Tout ça est difficile et impopulaire. Sans doute que ces experts de la destruction et de la division que sont les membres de l'État islamique le savent. Après tout, qui voudrait aider un garçon qui voulait être kamikaze ?
Merci Jacqueline Fardel. À demain.